19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois ? Hein ? Que dirions-nous ? Tous les lecteurs de Tintin auront reconnu cette étrange conversation qui ouvre la première planche des 7 boules de cristal et les aventures de la momie Raskar Kapak. 70 ans après la parution de cet album, bien peu de gens savent pour autant que nos caveaux royaux ont été ouverts, nos souverains fouillés. Archéo-anthropologue Aline Rapp, il aime les momies et la thanato-archéologie. Et voici peu dans le Salon Noir pour nous parler d'anthropologie criminalistique, mais se consacre aujourd'hui à nos rois. Patrice Georges, bonjour.
Bonjour.
Le grand sommeil, voilà ce qui advint des archéologues qui fouillaient Raskar Kapak ou Toutankhamon. C'est donc en connaissance de cause que vous avez exhumé Louis XI ?
Alors, a priori, pas de malédiction pour les tombeaux des rois de France. Mais maintenant que vous me le dites, j'ai perdu mes cheveux, à mon avis, trop prématurément. Et je me demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet.
Alors aujourd'hui, la presse bruisse de la mise au jour des premières tombes musulmanes en France. Donc on fera une petite parenthèse là-dessus. Évoquant l'héritage arabo-musulman, le Salon Noir en avait parlé quelque peu en avance en septembre 2013. Quoi qu'il en soit, une très belle découverte, Patrice Georges.
Alors une découverte fantastique. Alors évidemment, vous êtes complètement dans l'actualité parce que j'ai même pas eu le temps de lire l'article de PLOS ONE qui relate la découverte. Mais c'est l'exemple même d'une découverte intéressante parce qu'elle part d'une actualité de terrain, une activité d'archéologie préventive, des aménagements, amène la découverte de sépultures. L'archéologue et l'archéoanthropologue qui lui étaient associés comprennent rapidement qu'on a affaire à des tombes islamiques. Et puis on arrive là sur le must des études anthropologiques, c'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à l'étude génétique qui permet de confirmer leur étude qui était déjà assez solide d'un point de vue archéologique et historique.
Donc, les premières sépultures musulmanes au cœur de Nîmes est datée à peu près des années 720. Revenons à notre sujet. Pourquoi Louis XI se fait inhumer dans cette église du Loiret ?
Alors, ça serait lié à la victoire de la bataille de Dieppe, le 15 août 1443, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge. Il aurait fait vœu, remportant cette bataille, il aurait fait vœu de reconstruire l'église de Cléry qui avait été édifiée par sultan de Philippe le Bel.
C'est une église importante ?
C'est une église assez importante, donc déjà qui est assez massive, hein, qui fait à peu près 80 mètres de long sur 25 de large. Il n'est pas le premier à avoir fait des dons importants à l'église de Cléry, puisqu'on avait là Dunois, le compagnon de Jeanne d'Arc, qui déjà avait fait pas mal de dons à cette église. Et on pense que c'est quand même peut-être lié, d'une part, la Vierge et aussi le fait que Cléry s'était déjà attaché à cette église.
Alors, qui est ce Dunois ?
Alors, Dunois, c'est le compagnon de Jeanne d'Arc. Il est enterré, inhumé avec sa femme et des membres de sa famille dans une des chapelles de l'église de Cléry-Saint-André.
Et ce lieu était aussi le lieu d'un important pèlerinage, semble-t-il ?
Ben alors, de fait, hein, puisque la découverte d'une statuette, à Cléry-Saint-André, une statuette de la Vierge avait amené un pèlerinage, et puis le fait qu'après l'église devienne chapelle royale et que Louis XI s'y intéresse, ça n'a fait que renforcer tout au long des siècles l'attrait des populations envers ce lieu de culte.
Patrice Georges, Saint-Denis est le lieu d'inhumation des rois de France, du moins pour les Bourbons, pas pour les Valois. C'est pour ça peut-être que Louis XI ne se fait pas enterrer là ?
Non, il y a des Valois qui sont évidemment enterrés à Saint-Denis. Louis XI, lui, a vraiment la Vierge, a un attrait important envers la Vierge, et c'est la raison pour laquelle lui choisit Cléry-Saint-André, mais d'autres rois ont été inhumés à Saint-Denis.
Louis XI fait donc des aménagements et construire son tombeau. Que sait-on sur ce tombeau dans les années 1450 ?
Alors, un peu plus tard, en l'occurrence, mais on a pas mal d'informations historiques sur son tombeau. C'est-à-dire que actuellement, le tombeau que vous pouvez voir dans l'église de Cléry-Saint-André n'est pas du tout celui qui avait été édifié au temps de Louis XI. On parle d'une statue en bronze doré où il aurait été représenté en tenue de chasseur. Hein. Vous savez que Louis XI est un roi qui aimait beaucoup chassé. Et évidemment, cette statue a été détruite au moment où les protestants ont investi l'église de Cary-Saint-André. Et en fait, le monument que l'on voit actuellement est une reconstruction à partir des débris qui ont été ramassés à l'issue de la Révolution, en fait.
Alors, c'est un endroit où on descend, une sorte d'escalier. Ça se présente comment ?
C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'église...
Une sorte de crypte.
C'est une crypte, hein, en quelque sorte. Quand vous rentrez dans l'église de Cary-Saint-André, vous voyez un beau monument qui est assez majestueux, mais le caveau n'est pas complètement sous ce monument. Et si vous vous promenez dans cette église, vous verrez qu'il y a une trappe métallique, évidemment fermée, hein, pour qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Et en fait, ce sont là les premières marches qui mènent au caveau de Louis XI.
Et ça, c'était prévu dès l'époque de Louis XI ?
Ça, c'était prévu dès l'époque de Louis XI, hein, mais sauf qu'on les a retrouvées, les marches, bien après. C'est au temps, lors des saccages de 1562 par les protestants et lors de la Révolution en 1792, les gens sont passés par la voûte. Ce n'est que beaucoup plus tardivement, en 1889, qu'on retrouve cet escalier et qu'on redégage le caveau tel qu'il est visible actuellement et tel qu'il a été construit au Moyen-Âge.
Ce roi tient une place à part dans notre Moyen-Âge, une sorte de génie démoniaque.
Oui, alors les historiens, il y a tout un travail des historiens là-dessus, parce que c'était un roi qu'on imaginait, qu'on appelait l'universel araignée, hein, c'est-à-dire qu'on l'imaginait tout le temps en train de faire des complots, de manigancer. C'est un roi qui est important dans l'histoire de France, parce qu'il amène le royaume à une taille qui ressemble un peu à notre hexagone actuel. Et puis, il a traversé l'histoire, parce qu'il s'est appuyé sur des personnages qui étaient assez peu recommandables. On parle souvent d'Olivier le Dain. Moi, j'ai eu la chance de faire une maîtrise sur une autre créature, donc quelqu'un qui accomplissait un peu ses basses œuvres, hein, qui ont traversé le règne. Il est connu pour des actes de violence, etc. Donc c'est un roi qui a beaucoup fait travailler l'imagination des historiens, mais aussi du coup des romanciers. Et du coup, on s'est un peu éloigné sans doute de la réalité du règne de Louis XI.
C'est les terribles fillettes, c'est bien ça ?
Exactement, c'est ça. Donc ces cages de fer dans lesquelles on enfermait les prisonniers et qui ont traversé les siècles. Et du coup, l'imagerie populaire et puis une historiographie du début du XXe siècle n'ont retenu que ça, alors que bon, le règne est évidemment un peu plus intéressant que ces cas anecdotiques, qui existaient par ailleurs.
C'est aussi Philippe de Comines. Philippe de Comines, grand personnage, une sorte de Machiavel français, qui décrit d'ailleurs la maladie de Louis XI.
Voilà, alors vous avez plusieurs chroniqueurs, hein, qui s'occupent du règne. Donc là, c'est tout ce qui est tout le travail de l'historien. C'est-à-dire qu'on a à la fois des sources, diverses sources, et puis bon, un peu de recul à avoir. Par exemple, vous avez un autre chroniqueur qui fait un portrait physique du roi. Donc on serait tenté de dire, on pourrait s'appuyer dessus pour essayer de retrouver un peu quelle tête il pouvait avoir et savoir si ça correspond au tableau. Mais quand on sait par exemple que ce chroniqueur est évidemment en disgrâce, bon, on peut imaginer qu'il a forcé un peu le trait dans l'autre sens.
Oui, on le dit, assez mal formé, avec des jambes maigrelettes.
Voilà, c'est notamment ce chroniqueur Thomas Bazin qui en parle. C'est peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein, mais on peut pas dire. En tout cas, nous, à partir des ossements qu'on a recueillis, on peut pas aller sur ce terrain-là.
Vous avez donc fait de l'archéologie, vous avez fait de l'anthropologie, vous avez aussi essayé de collecter toute une masse de documentation liée à cette église, à cette chapelle, à cette tombe,
voilà,
et donc
alors...
par force à l'histoire de France.
Alors voilà, c'était tout l'intérêt de l'étude. C'est-à-dire, alors, en termes d'archéologie, en définitive, très peu, parce que en fait, j'ai fait de l'archéologie des anciennes sources et de mes collègues. C'est-à-dire que j'ai essayé de me mettre dans la peau de ce que mes prédécesseurs au XIXe siècle ont pu découvrir. Donc, pas tellement d'archéologie, beaucoup d'anthropologie, et puis inévitablement, récolement de toutes les sources, hein, alors les sources historiques d'une part, et puis aussi les sources, les articles de mes prédécesseurs, qui devenaient en quelque sorte des sources de première main, puisqu'on a plusieurs témoins, on a énormément d'articles dans une société locale, où les érudits ont écrit ce qu'ils ont vu, avec des témoins, chacun y est allé de son livre, et tout ça, eh bien, il faut le comparer, il faut avoir un regard critique, et puis on essaye d'avancer, de mettre les pièces du puzzle en bon ordre, pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que quand moi je suis intervenu, en fait, c'est peut-être ça aussi le point de départ, c'est qu'un collègue, alors je n'ose pas l'appeler collègue, mais en tout cas un anthropologue venant de l'étranger avait proposé ses services, il voulait faire une reconstitution faciale de Louis XI, donc donner un portrait, hein, c'était une activité commerciale en quelque sorte, et du coup c'est ça qui a généré en fait cette étude. Qui est à l'origine de cette étude, c'est qu'il a ouvert le tombeau et il a fait plein de choses dans ce tombeau. Du coup, il a jeté le doute sur des siècles d'observation avant lui. Et du coup, nous, c'était une étude qui a été diligentée par le ministère de la Culture pour mettre de l'ordre un peu dans son étude à lui. En
fait. Dans toutes ces archives, vous avez trouvé des textes encore, je dirais, inédits ou inconnus?
Alors, il y avait...
Des sources nouvelles?
Non, il n'y a pas tellement de sources nouvelles. Il y a, si vous voulez, il y a toujours le côté un peu émotionnel de retrouver des sources, d'accéder aux sources que les gens ont mentionnées sans les avoir intégralement publiées ou sans même les avoir touchées. Il y a quand même un document inédit qui est en fait la découverte du cœur de Charles VIII, qui date de 1634 par des ouvriers qui faisaient des travaux dans l'église. Donc 1634, Charles VIII est mort en 1498. Peut-être d'ailleurs à cause des guerres de religion, plus personne n'avait idée de l'emplacement de sa sépulture. Voilà, ça c'est un document qui est conservé à la bibliothèque du Sénat et auquel j'ai pu accéder. Oui, ça c'était une vraie découverte.
Le roi meurt le 6 septembre 1483. De quoi ?
Alors là encore c'est compliqué parce qu'on a effectivement un certain nombre de sources qui nous détaillent les symptômes. Alors on appelle ce qu'on appelle le diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire essayer de faire le médecin quelques siècles après, ça devient complètement difficile. D'autant plus que les historiens, ils sont tous allés de leurs termes médicaux pas forcément appropriés. Donc je vous avouerai franchement que je ne sais pas de quoi le roi est mort. Et en tout cas, sur les vestiges osseux présumé lui appartenir, on n'a rien vu qui pouvait expliquer son décès.
Alors on le dit mort d'une hémorragie cérébrale.
Alors c'est tout à fait possible, hein, c'est ce qu'on appellerait peut-être un AVC maintenant. C'est manifestement le cas, hein, les historiens, les chroniqueurs, les gens de son entourage ont détaillé sa longue maladie. Ça ressemble à ça, mais moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas arriver à poser un diagnostic.
En tout cas, ça ne laisse pas de traces sur un crâne.
Alors, en tout cas, ça n'a pas laissé de traces sur un crâne, à condition qu'on tienne pour juste que les vestiges crâniens qui sont actuellement exposés dans ce caveau appartiennent bien à Louis XI.
Alors j'ai lu bien sûr avec beaucoup d'intérêt le livre que vous venez de sortir, Les sépultures prestigieuses de l'église Notre-Dame de Cléry-Saint-André dans le Loiret, publié chez l'Harmattan. Des crânes, bien sûr, vous en avez. Vous en avez même qui sont verts, quelquefois.
Voilà, bah, y a des traces liées à l'oxydation des métaux cuivreux, hein, c'est des choses. Et cette coloration, elle était intéressante parce qu'elle permet aussi d'apporter des arguments sur les appariements entre les os. Alors, c'est pas forcément pertinent, mais voilà, les gens ont tout de suite réagi par rapport à la couleur des ossements, par rapport à leur aspect, pour essayer de faire des groupes, parce que ce caveau, en fait, a été perturbé à de nombreuses reprises, et les rares os qu'on a retrouvés étaient épars, si vous voulez. Hein. Faut pas imaginer des corps qui étaient dans leur intégrité parfaite.
L'église de Cléry, la tombe, je devrais même dire les tombes, ont beaucoup souffert donc de l'histoire de France.
Oui, bah comme beaucoup d'églises, effectivement. Hein, j'ai évoqué déjà plusieurs fois 1562, hein, les protestants prennent. J'ai l'air d'assaut, non, mais rentre dans l'église, saccage des monuments. Voilà, on ne savait pas, par contre, 1792, évidemment. Pour 1562, donc on sait que les monuments ont été détruits. Et donc la question se posait, dans quelle mesure il reste dans le caveau les os appartenant au roi et à la reine? Ça, c'était vraiment la question. Donc, c'était un peu l'objet de l'étude. On espère y avoir répondu avec toute la prudence, peut-être un peu plus de prudence qu'auparavant, et à la fois, peut-être plus de certitude.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Patrice Georges, ces destructions de 1562 ou de 1792, c'était une véritable volonté d'atteindre le roi ou du moins les vestiges du roi?
Alors c'est un peu difficile parce que il n'y a pas que les tombes, il n'y a pas que le caveau hein, qui a souffert de 1562 et 1792. Alors souvent, sans doute qu'il y avait ça dans l'air. Il y a aussi des choses assez pragmatiques puisqu'on dit qu'en 1792, par exemple, ce qui a intéressé les révolutionnaires, c'était aussi le plomb. Pour le fondre, pour en faire des munitions. Donc moi, je n'arrive pas à mesurer dans quel esprit étaient les gens à cette époque-là. Ce qui est sûr, c'est que les monuments ont souffert, des tombes ont souffert, et que le caveau royal en 1792 montrait déjà qu'il avait été visité en 1562. Et quand les gens, en fin 19e, reviennent dans le caveau royal, ils voient bien qu'en 1792, il y a aussi des changements.
Donc peut-on reconstituer le caveau avant 1562? Une sorte de grande salle souterraine, bien sûr un caveau, et à l'intérieur, un cercueil de plomb, c'est bien ça?
Alors, pas si grande que ça, hein. Il faut imaginer une petite salle de quelques mètres de largeur, quelques mètres de longueur. Vous avez, comme actuellement, hein, vous avez sur votre droite un grand sarcophage de pierre, de forme trapézoïdale, un peu plus large au niveau de la tête qu'au niveau des pieds, qui est fiché dans le sol, enfin qui est fiché avec des éléments de fer qui permettent de le maintenir. À gauche, actuellement, vous avez un petit sarcophage dont on a revu, dont on a retracé l'arrivée. Il arrive, il est un peu exogène. Il arrive au début XXe siècle. On imagine qu'à gauche, il devait y avoir également un sarcophage lié à la reine. Et c'est à l'intérieur de ce sarcophage en pierre que vous aviez un cercueil de plomb qui lui-même était entouré d'une boîte en bois, d'un cercueil de bois, certainement.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, il y a eu du massacre, mais il y a eu aussi des sortes de fouilles archéologiques. Et visiblement, on y vient et on y revient, notamment au travers des recherches du docteur Duchâteau en 1896, par exemple.
Voilà, alors ce ne sont pas ses recherches à lui, mais c'est le docteur Duchâteau, c'est le docteur local à qui on doit un inventaire anthropologique, hein, à la manière de ce que feraient mes collègues actuellement. C'est-à-dire qu'il regarde tous les os qui sortent du caveau. Et il en fait un inventaire. Nous, on a repris cet inventaire, évidemment. Il y a quelques petites différences entre ce qu'il a vu et ce que nous avons vu, des erreurs de latéralisation. Voilà, mais c'est normal.
Hein, il n'en a pas perdu, par exemple.
Il n'en a pas perdu. Par contre, il y a des pièces qui sont en trop. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Entre le moment où il vous fait l'inventaire et entre le moment où les choses ont été exhumées, il y a des pièces qui apparaissent.
Il y a eu des rajouts.
Il y a eu un rajout. Alors voilà, on peut lever le suspense. Hein, c'est qu'on suspecte fortement l'abbé Saget, qui a attendu un certain moment avant de sortir son ouvrage, hein, malgré l'importance de la découverte qu'il était censé avoir fait. On pense qu'il a rajouté des os, notamment les os qui étaient dans le grand sarcophage. Donc, il faut imaginer que ce sarcophage a été... Il y a une vitrine qui a été faite à l'extrémité de ce sarcophage, dans laquelle vous avez essentiellement les restes crâniens et quelques os. Et vous avez une cuve dans laquelle on a reconstitué des squelettes. Et l'hypothèse que nous émettons à la suite de l'étude, c'est que ces squelettes n'ont absolument rien à voir avec les squelettes du roi et de la reine. Par contre, les restes crâniens, vraisemblablement.
Pourquoi ouvrir cette tombe, d'ailleurs jusqu'en 2001, hein ? Quel était l'esprit de ces recherches ?
Bon, alors, au 19e, hein, vous êtes dans un élan de curiosité scientifique incroyable. Hein. Donc, souvent, on décrit le 19e, moi, je reviens dessus, parce que j'ai pu mesurer la probité de ces archéologues, leur curiosité, leur érudition, et même leur efficacité, et puis leur justesse. Les plans sont faits, sont vérifiés, les mesures sont justes, on est vraiment dans un esprit sale. Jusqu'en fin 19e, on est dans cet esprit-là. L'abbé Saget, lui, il a sans doute dans l'idée, hein, on est juste avant la séparation de l'Église et de l'État, il y a des choses quand même qui se passent là au niveau, dans le contexte politique, qui font que lui, il a sans doute envie de redonner l'importance que mérite en fait ce caveau aux yeux de la population.
Un roi chrétien, donc il fait une manipulation.
Ah, il y a une manipulation évidente.
Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que Patrice Georges est archéo-anthropologue à l'INRAP, évoque les tombes de l'église de Cléry-Saint-André dans le Loiret et bien sûr le tombeau de Louis XI. On sait que Louis XI et son épouse Charlotte de Savoie reposent dans l'église, mais ils ne sont absolument pas les seuls. Il y aurait bien sûr aussi le cœur de Charles VIII, voire la relique de Saint-André.
Voilà, alors on a évoqué la relique de Saint-André, peut-être d'ailleurs dans une des visites au cours du 19e qui étaient peut-être associées à ces eaux-là. Là, on n'a pas vu. On a la chapelle des Dunois, hein, donc je vous ai dit, Dunois, sa femme, et puis certains membres de sa descendance.
Donc, compagnon de Jeanne d'Arc.
Alors après, on a aussi beaucoup de découvertes. On est aussi dans cet esprit-là au 19e. C'est qu'on a envie, dès lors qu'on savait qu'il y avait le caveau de Louis XI, la sépulture de cœur de son fils, etc., on a envie d'aller chercher, évidemment, que des personnages dont le nom est connu dans l'histoire de France. Donc on parle de certains enfants de Louis XI, on n'a évidemment pas de preuves, mais on a un certain nombre de sépultures, hein, comme dans beaucoup d'églises, et puis il y a des chapelles, et nous, notre étude n'a évidemment porté que sur un tout petit nombre de sépultures dans cette église.
En tout cas, Patrice Georges, on pourrait même y avoir Jeanne d'Arc, morte, non brûlée, et à l'âge de 57 ans.
Oui, alors ça, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, mais c'est vrai que cet anthropologue-là, hormis qu'il avait mis le doute dans l'esprit de tout le monde, hein, y compris des professionnels de l'archéologie, puisque cette tombe voilà, elle était là, personne n'avait lieu d'y retourner. Il a évoqué cette hypothèse-là, hein, d'ailleurs je crois qu'il continue à l'évoquer dans certaines publications. Alors on peut en rire, mais c'est vrai que dans la population, imaginez que vous ayez quelqu'un qui se présente comme un anthropologue, qui arrive dans cette commune, qui propose ses services, qui dit voilà, je viens de faire une découverte incroyable et qui met le doute, le caveau royal n'est plus le caveau royal, Dunois n'est plus Dunois, et tout d'un coup j'ai la tombe d'un personnage que tout le monde dit avoir été brûlé. Voilà, donc ça prête à sourire pour nous, mais il faut imaginer que ça semait le doute, et donc c'était aussi l'un des objets de l'étude.
Quand vous intervenez dans l'église de Cléry-Saint-André, sur le terrain, que faites-vous ?
Alors, sur le terrain, c'est plutôt dans l'église, hein. La première chose, déjà, c'est qu'on a envie de voir. Parce que ça, c'est une découverte qui avait été médiatisée, hein, à l'époque. Alors ça, c'était peut-être le bon côté des choses. Parce que moi, ce qui m'intéressait, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ce qui m'intéressait, moi, dans cette histoire, c'était l'embaumement. Moi, c'est mon sujet de recherche universitaire. C'est ça, mon angle d'attaque. C'est la raison pour laquelle je voulais aller voir ce caveau. Et donc, j'ai été voir... le caveau, et puis un peu la politique du pied dans la porte. Hein. Une fois que le caveau était ouvert, on a évoqué évidemment les travaux qui avaient été faits par notre confrère. Et le SRA a demandé une étude, le service régional de l'archéologie a demandé une étude, a demandé une expertise pour savoir ce qui avait été fait valait le coup ou pas.
Donc, une chose était sûre. Dans le caveau, il y avait bien des os.
Alors, dans le caveau, il y avait bien des os. Donc, je vous ai dit, il faut imaginer dans ce grand sarcophage de pierre, vous avez une petite vitrine où vous avez des os, essentiellement des os qui viennent du crâne. Il faut imaginer des crânes plus ou moins complets. Quelques os comme ça épars, donc un fragment sternum, une vertèbre, un cartilage thyroïdien. Et puis, vous avez dans la cuve, là, en revanche, des squelettes dont on voit qu'on a essayé de recomposer des corps. Hein. En gros, les tibias sont à la place des tibias, les fémurs à la place des fémurs, mais ça peut être retourné, il n'y a pas non plus. Et on essaye de remettre deux corps. Ceux-là, ces deux corps-là, clairement, ont été apportés après, sans doute par l'abbé Sagé. Par contre, on s'est intéressé plus particulièrement, alors je vous dis ça maintenant hein, d'un trait de... Enfin, vraiment de façon assez facile, mais du coup j'ai eu plusieurs collègues avec lesquels on a travaillé, on a fait l'estimation de l'âge, on a regardé de quel sexe le sexe des individus. Voilà, c'est une démarche qui est évidemment un peu plus longue que ça, mais on a pu arriver à la conclusion que ces individus ne correspondaient pas du tout au squelette du roi et de la reine.
En tout cas, les ossements de Louis XI sont-ils dans le caveau ?
Alors, y a deux choses. Si vous voulez, si on est au tribunal, peut-être que je vous dise mon intime conviction. Mon intime conviction, c'est qu'effectivement, les vestiges crâniens appartiennent sans doute au roi et de la reine. Mais d'un point de vue scientifique, la seule chose qu'on peut dire, c'est que figurent dans cette vitrine des os qui ont été vus dès la première visite de 1562. Parce que ce qui a frappé les gens en 1562, comme 1792, et comme à chaque visite, c'est qu'on a retrouvé des crânes qui étaient sciés. Et donc ce crâne-là, et d'ailleurs c'est l'origine de l'erreur de l'abbé Sagé, parce que dans sa manipulation, il a fait une erreur. C'est-à-dire qu'il a cru remettre un deuxième crâne, alors en fait, il remettait un troisième. C'est-à-dire que les gens ont toujours vu un crâne qui était scié. Donc, imaginez la base d'un crâne et la calotte crânienne. Donc, lui, il s'est dit, il n'y a qu'un crâne, il faut que j'en rajoute un deuxième, puisque j'ai un roi et une reine, il faut que la sépulture corresponde à l'image qu'on pouvait avoir d'un roi et d'une reine. Mais en fait, ce qu'il ne savait pas, puisqu'il n'était pas anthropologue, c'est qu'on n'avait pas là un seul crâne scié, mais on avait la base d'un crâne scié et la calotte d'un autre crâne scié. Donc, il rajoutait un troisième individu.
On aurait scié le crâne du bon roi ?
Alors, on aurait scié le crâne du roi et sans doute de la reine, puisqu'on les a embaumés. Donc, effectivement, c'est une pratique, moi, qui m'intéresse particulièrement. Avant même d'aller en Égypte, je me suis intéressé à cette pratique-là dans mes recherches universitaires. C'est-à-dire qu'on embaumait au Moyen-Âge, et on embaumait essentiellement les corps des grands dignitaires, et en particulier le roi et la reine. On sciait le crâne, surtout son pourtour, pour pouvoir prélever le cerveau dans sa globalité, dans sa masse.
Et que faisait-on du cerveau ?
Alors, on le mettait avec les autres viscères. On a, à ma connaissance, pas tellement de tombes connues de viscères, mais en tout cas, il y avait un côté pragmatique, hein, puisque les funérailles étaient longues, donc on les exposait longtemps. Et puis, il y a aussi une charge symbolique, notamment pour le cœur. Hein. Vous avez vu que Cléry-Saint-André avait une sépulture de cœur. Les sépultures de cœur sont beaucoup plus documentées.
Vous écrivez « Mourir, c'est pourrir un peu ». Pourquoi l'embaumement ?
Alors l'embaumement, justement, je vous ai dit, les funérailles, surtout à la fin du Moyen-Âge, ont tendance à s'allonger, sauf erreur dans l'étude qu'avait fait Muriel Godeferragu, qui s'est intéressée aux funérailles de Charlotte de Savoie. Il y a 14 jours entre le moment où Charlotte de Savoie meurt et le moment où elle a été inhumée. 14 jours, évidemment, le corps est exposé. Alors, on amène cette pratique d'embaumement pour retarder la putréfaction et on sort ce qui pourrit le plus rapidement, à savoir les viscères.
Il n'y a donc pas que les Égyptiens qui ont embaumé. Notre Moyen-Âge l'a fait aussi souvent. Mais qui se fait embaumer durant cette période ?
Alors, les grands dignitaires du royaume, en particulier le roi et la reine, on a vers la fin du XVe siècle, je ne vais pas dire une généralisation de l'embaumement, mais on a quand même des gens qui ne sont pas forcément de très 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 haute extraction, qui arrivent à se faire embaumer. Et puis cet embaumement continue jusqu'au XIXe siècle, hein, au moment où on va inventer l'embaumement chimique, hein, le fameux ganal en l'occurrence.
Il y a l'embaumement externe, mais il y a aussi l'embaumement interne. Ce qui arriva, par exemple, à Charles le Chauve pour Charlotte de Savoie, on peut penser qu'il y a eu embaumement interne ?
Alors, on le sait, hein, puisque les contes d'obsèques nous détaillent la façon dont le corps de la reine a été préparé, dont le cœur a été prélevé. Charles le Chauve, c'est l'exemple le plus ancien. On est sous Charlemagne quand même, hein, la période carolingienne. C'est l'exemple le plus ancien d'embaumement par éviscération. On dit embaumement interne, à la différence de l'embaumement externe, qui serait le modèle christique, le corps sur lequel on aura appliqué des baumes. Là, on est vraiment sur une opération qui est assez technique, dans laquelle l'opérateur va être obligé de plonger les mains pour sortir les organes et accomplir toute une série de gestes.
Et surtout, couper le sternum.
Alors, coupé, voilà, ça c'était une découverte qui avait été faite par ailleurs, mais qui n'avait pas été mise en valeur comme nous on l'a mis. C'est-à-dire que tous les textes relatifs à l'embaumement au Moyen-Âge et bien après n'évoquent pas du tout cette façon de faire pour aller prélever le cœur. Et nous, on l'associe clairement à une pratique chirurgicale pour aller prélever le cœur, mais qui a aussi une incidence sur la recomposition du corps. Parce que je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est d'enlever ce qui pourrit rapidement, mais c'est aussi le but d'exposer le corps. Et alors, il faut quand même que le corps lui redonne son volume, et cette façon de découper le sternum permet de redonner assez facilement du volume au corps.
Donc pour vous, Louis XI a aussi été embaumé ?
Alors Louis XI a vraisemblablement été aussi embaumé, oui.
Lors de l'ouverture archéologique du tombeau de Philippe Ier, mort au début du XIIe siècle, les témoins auraient senti une forte odeur de plantes aromatiques. Vous avez senti cette odeur dans le caveau de Louis XI ?
Non, alors on l'a pas senti. Moi, c'est quelque chose au début qui m'intéressait. Alors, on aurait pu se moquer au départ de ce genre de... Et on pourrait se moquer encore, hein, parfois dans les comptes rendus du XIXe, où souvent les gens sentent cette odeur-là. Il s'avère que je l'ai déjà senti dans les sépultures des princes de Condé, avec Nicole Garnier au château de Chantilly. On avait pu ouvrir le tombeau des cœurs et cette odeur, elle était flagrante. Donc les produits qui ont été mis permettent d'exhaler une bonne odeur de sainteté parfois.
Patrick Georges, vous n'avez pas la preuve formelle que nous ayons affaire à Louis XI. Le débat autour de ces sépultures est-il donc fini, en deux mots ?
Alors, il est fini dans notre étude. Après, les historiens des générations futures peut-être reviendront dessus.
Patrice Georges, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Les sépultures prestigieuses de l'église Notre-Dame de Cléry-Saint-André, dans le Loiret, publié chez L'Harmattan. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir évoquera le chat, histoire et préhistoire du chat.